Paysage vibratoire. L'émission de poésie, un habit de musique. Un moment radiophonique sensible et jubilatoire proposé par CFM Radio. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver en cette soirée, comme d'habitude, tous les mardis soirs vers 22h. Vous avez droit, n'est-ce pas, à cet itinéraire poétique où je vous amène en paysage vibratoire. Ce soir, émission spéciale, puisque j'ai deux invités. D'abord un poète libertaire, Jacques Núñez Teodoro, et une fille qui, n'est-ce pas, croque la vie comme peut-être elle croque les pommes, je n'en sais rien. Anne Logvinoff-Mouilleron, bonsoir messieurs, dames.
Bonsoir Marek.
Bonsoir Marek.
Voilà, donc on va commencer par l'univers poétique de Jacques. Peut-être en préambule, un petit coup de projecteur sur l'itinéraire de sa vie. Alors, tu es né en 1948 sur les bords de Loire, enfant d'une fille de ferme et d'un ouvrier agricole espagnol, petit-fils de paysans sans terre du côté maternel et d'immigré de la fin du côté paternel. Et ça, je pense que c'est une matrice importante pour l'itinéraire de ta vie et ton univers poétique. Alors, tu es aussi auteur dramatique, poète, romancier, novelliste. Bien que tu sois désormais à la retraite, tu as participé aussi à l'alphabétisation de travailleurs et de primo-arrivants. On te retrouve aussi avec les planches dans des actions théâtrales. Enfin bref, un homme pluriel. Tu as animé aussi des ateliers d'écriture avec des scolaires, des adultes, des publics ciblés. Alors j'aime bien l'expression, gens du voyage par exemple. Alors tu vis dans le Lot et tu ne peux pas t'arrêter, n'est-ce pas, d'écrire toujours et encore. Alors, poète libertaire, alors peut-être un peu d'explication sur cet engagement.
Alors libertaire, c'est le mot qui, en l'occurrence, est le plus important, non pas par rapport à ce que nous faisons actuellement, mais pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Je suis libertaire plutôt qu'anarchiste, parce que le terme anarchiste a tellement été dévoyé, l'est encore. Il suffit d'écouter actuellement, tous les week-ends, ce qu'on raconte sur les médias en général, concernant les black blocs, et donc du coup, disant n'importe quoi. Alors que les choses soient claires, nous, qui nous réclamons de la théorie et de la pensée libertaire ou de la pensée anarchiste, nous combattons des gens comme ceux-là. On n'a rien à voir avec cela, hein, que les choses soient claires. Pour résumer la pensée libertaire, c'est le droit à chacun de penser tout seul et de s'exprimer tout seul et de se gouverner tout seul, mais le tout mis en commun.
Très bien. Non, mais c'est très bien de souligner et qu'il n'y ait pas de confusion. D'ailleurs, tu as ta petite définition de la poésie, puisqu'on va parler particulièrement de poésie ce soir. Tu dis ceci, la poésie est une mauvaise fille, elle traîne dans des lieux malfamés de l'âme, elle parle par la bouche de gens infréquentables, elle se roule dans la glaise de l'imaginaire, elle n'aime que des mots libres. Au fond, la poésie est plutôt bonne fille. Alors, tu as besoin de fréquenter les lieux malfamés de l'âme ?
Oui. Mais de toute façon, je crois que les vrais artistes, parce que ça dépasse même la poésie, mais les vrais artistes sont toujours des gens qui ont une faille, voire des failles. Des gens qui ont une sensibilité particulière. Je vais juste, pour appuyer ce que je dis, citer un très grand poète que j'aime particulièrement, qui est mort malheureusement il y a un certain temps, qui avait écrit des pièces, dont une qui fit son gros scandale dans les années 50, qui s'appelle Nucléa, qui était une pièce contre le nucléaire. Et cet homme s'appelait Henri Pichette. Et Henri Pichette dit la chose suivante: « À ma place, dans la curieuse espèce humaine, j'avais le sentiment d'y être, mais d'une variété hypersensible, surémotive, très ondoyante, incernable, à renvoyer dans une mystérieuse nomenclature. Voilà.
C'est ça, une mystérieuse nomenclature.
Et c'est ce pourquoi, effectivement, dans le mouvement poétique actuel, pas seulement en France, la poésie est effectivement une bonne fille, mais elle réclame qu'on aille fouiller, ou plus précisément, elle nous entraîne, c'est là qu'est l'acte poétique, dans des lieux qui normalement ne sont pas fréquentés par les rupins, les bourgeois, les gros, etc., comme les appelait...
Qui parlent de bienséance.
Voilà. Et, voilà,
mais conventionnel, en quelque sorte.
Oui.
Ouais. Hors convention, ouais.
C'est ce pourquoi, effectivement... Mais c'est la même chose. Alors, c'est ce qu'on va retrouver chez Dylan, mais ouais. C'est ce qu'on va retrouver dans l'art brut en peinture, c'est ce qu'on va retrouver chez un ensemble d'écrivains. J'entendais ce matin... une diatribe à l'encontre de Louis-Ferdinand Céline. Alors le débat, pour moi c'est un faux débat. Dès lors que l'on considère le matériau écriture, est-ce qu'on parle de l'homme ou pas? Ou de la femme, enfin l'homme au sens général.
Est-ce qu'on peut le dissocier?
Alors, le problème est là, est-ce qu'on peut le dissocier? Personnellement, j'ai découvert Céline très jeune, à 13 ans. Pour moi, ça reste un des plus grands écrivains de la langue française. Mais si j'avais rencontré Céline, il prenait mon poing dans la gueule.
Ah ouais, tu lui aurais craché la figure, c'est clair.
Oui, ouais. Ça se comprend, hein, puis ses positions.
Ah non, mais c'est
évident.
Ouais, voilà.
Ouais.
C'est évident.
Mais pour autant, bon, son art littéraire.
Ouais. Au moins Voyage au bout de la nuit, oui, et Mort à crédit, ça a changé la littérature.
Bien sûr.
Mais tout comme Proust, dans un tout autre registre, a changé la littérature.
D'accord.
Tout comme Baudelaire a changé la poésie et Rimbaud. Bon, voilà.
En tout cas, on sent que dans ton écriture, ta poésie, t'es sans concession. D'ailleurs, un de tes compagnons d'armes, un compagnero, comme il t'appelle affectivement, Yves Lopez, qui, précisons-le, est président de la Fédération française pour...
Été.
Bon, d'accord. Bon, enfin, pour l'UNESCO. Il dit ceci, moi j'ai relevé, je trouve que ça colle juste par rapport à tes écrits... Peaufiner, bricoler, ciseler la révolte et l'indignation, sans jamais rien limer de ses aspérités, de ses inconvenances, pour leur donner la force la plus grande des mots, dans leur chatoyante diversité, la plus profonde intensité, la plus absolue vérité dans l'adéquation à l'être. Que tu as bien réussi cela, compañero Núñez Teodoro, combien j'en suis admiratif. Je trouve que c'est une très belle éloge, et qui sonne très justement par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à ta poésie. Voilà, pas de concession, hein, on lime pas les aspérités chez toi. Tu y vas, quoi, t'envoies le bois, quoi.
Hein. Oui, absolument.
C'est ça. Alors, c'est une poésie, très bien écrite. Enfin, j'aime bien ton style d'écriture. Et effectivement. On sent qu'il y a une densité quand même dans les thèmes et dans le sens. Il y a de gros nuages lourds sur l'horizon, hein. Sans oublier que chaque nuage noir possède sa frange d'or. Donc il y a peut-être aussi l'espérance qui est derrière. Voilà. Alors voilà. Donc tu te définis toujours dans cette révolte salutaire, comment j'appelle la juste indignation. Il y a d'autres artistes qui sont indignés, même des chanteurs. Et on va faire une petite pause poétique.
Alors, juste un point.
Oui.
Le prix que j'ai obtenu au prix d'UNESCO, auprès de l'UNESCO, c'est ce pourquoi Yves a écrit la préface, s'appelait, et ça va dans le sens de ce que tu dis, précisément, prix de la révolte poétique.
D'accord, voilà, très bien. Alors on va faire une toute petite pause avec Grimmel Wright, que visiblement tu as bien connu.
Non, j'ai connu un petit peu.
Que tu as croisé. Voilà, moi je crois que voilà, c'est en adéquation. Alors la chanson de 1968, lui parle peut-être de cette utopie de ces années-là, mais qui pour moi était très fertile, Le jour de clarté. On l'écoute.
Quand tous les affamés et tous les opprimés entendront tous l'appel, le cri de liberté, toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. On peut chanter tous les poèmes des sages et on peut parler de l'humilité. Mais il faut s'unir pour abolir injustice et pauvreté. Les hommes sont tous pareils, ils ont tous le même soleil. Il faut, mes frères, préparer le jour de clarté, quand tous les affamés entendront tous l'appel, le cri de liberté. Toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. On peut discuter sur les droits de l'homme et on peut parler de fraternité. Mais que les hommes soient jaunes ou blancs ou noirs, ils ont la même destinée. Laissez vos préjugés, rejetez vos vieilles idées. Apprenez seulement l'amitié pour que les affamés et tous les opprimés entendent tous l'appel, les cris de liberté. Toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. On ne veut plus parler de toutes vos guerres et on ne veut plus parler de vos chants d'honneur. Et on ne veut plus rester les bras croisés comme de pauvres spectateurs. Dans ce monde divisé, il faut des révoltés qui n'auront pas peur de crier pour que les affamés et tous les opprimés entendent tous l'appel, le cri de liberté. Toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité.
Vous êtes bien sur CFM Radio 90.2 à l'écoute de l'émission Paysages vibratoires. Et aujourd'hui, j'ai deux invités, Jacques Núñez Teodoro, poète libertaire, et Anne Logvinoff-Mouilleron, illustratrice, dessinatrice. D'ailleurs, je me tourne vers elle maintenant.
Oui.
Alors, on s'est croisés dans d'autres circonstances.
C'est
puisque,
clair.
on a tapé du pied sur les planches pour les médiévales de Villeneuve.
Et c'est
comme ça qu'on s'est rencontrés.
Absolument.
Et bon, ben, si tu es là en compagnie de Jacques, ouais, effectivement, c'est que il y a une correspondance avec lui. Tu as fait
sept dessins
ouais, sur le recueil de poèmes La dérive des continents.
Absolument. Et ça a été déjà un honneur et un plaisir que Jacques me demande de faire des illustrations pour ses poèmes. On s'est rencontrés pour la première fois au Salon du Livre de Villeneuve il y a quelques années. Et on avait discuté, on s'est revus par la suite dans d'autres salons du livre. Et donc, ça s'est fait naturellement, notre amitié, en fait, Jacques. Hein, tout, ça s'est fait comme ça, très naturellement. Bon, moi, je fais principalement des illustrations et des livres pour enfants. Mais c'est pour ça que ça m'a un petit peu étonnée que Jacques me demande de faire des dessins pour ses poèmes. Parce qu'au départ, c'était pas évident qu'on ait le même univers artistique, si tu veux.
Ah oui, Marek, parce que l'illustration d'enfant.
Ah non, là, c'est pas.
Quand on voit les.
Non,
les,
non,
ton,
non.
Ton, non. Voilà, tes illustrations.
Ouais.
Bon, ça commence par un portrait de
oui,
Jacques.
Oui, oui, oui.
Super bien fait. Alors,
c'est gentil.
Quelle technique, c'est quoi? Du crayon,
non,
de l'encre?
Les deux. Crayon et encre. J'ai repris ma petite cuisine parce que moi, c'est comme ça que je travaille. J'aime pas du tout les techniques. Moi, j'aime bien jouer avec les techniques. J'aime pas du tout les techniques qui sont des chapelles, si tu veux, où on prend de l'huile et on reste à l'huile, on prend de l'aquarelle, on reste dans l'aquarelle, puis il faut surtout pas, moi j'aime pas ça.
Il faut surtout pas fréquenter les autres, parce que c'est pas des extras purs, etc. Non, mais je connais le monde de la peinture, et je fais de la chanson aussi,
oui.
Ne fréquentant pas le jazzman, il pourrait nous contaminer,
absolument.
Moi qui fais de la pop et du rock.
Voilà. Tout à fait,
On en est au-delà de ça, bien
absolument.
Sûr.
Ouais, ouais. Et donc, c'était un petit défi pour moi, parce que de revenir d'une part non seulement au crayon à papier en tant que technique, si tu veux, parce que généralement moi je fais des crayonnés rapidement, soit au crayon, soit directement au crayon de couleur, puis après je passe à la couleur immédiatement. Donc de revenir au noir et blanc, bon, de toute façon Jacques m'avait demandé des dessins en noir et blanc, et puis de toute façon le noir correspondait quand même à l'univers de Jacques.
Complètement, moi je trouve qu'il y a une correspondance très fine.
Et c'était un défi pour moi, si tu veux, parce que j'ai lu ses poèmes et Jacques peint avec les mots quand même. Donc au départ, c'était vraiment un défi pour moi de faire ces dessins parce que il fallait pas redire la même chose, paraphraser en quelque sorte ce que dit Jacques et qu'il le dit merveilleusement avec ses mots, mais rester dans son univers et faire quelque chose de parallèle qui soit en même temps complémentaire. Alors la dérive des continents, tout de suite, moi j'ai pensé à un travail sur la sphère. J'avais déjà travaillé il y a des années au Moyen-Âge, à l'époque de la première année de Beaux-Arts, quand j'étais en première année de Beaux-Arts à Lyon. Donc déjà, on avait fait un travail sur la sphère, donc je suis revenue à mes premières amours, tu sais, graphiques. Et puis, d'essayer de travailler sur la force, la violence, le déchirement, tout ce que... Alors, j'ai lu une première fois les poèmes de Jacques. Et puis après, si tu veux, j'ai plus fait attention au texte. J'ai laissé mariner un petit peu. J'avais commencé à faire des croquis quand il m'en a parlé.
C'est le temps de décantation salutaire pour que
tout à fait.
La force vienne.
De façon à ce qu'à ce moment-là, je me mette à dessiner des choses dont je me souvenais par rapport à l'univers de Jacques, mais pas sans m'appuyer vraiment sur les mots, tu vois. Et là, ça a été vraiment quelque chose d'agréable, de stimulant. De faire ça, vraiment. Alors, il se trouve que ça lui a plu, donc ça me faisait plaisir.
D'accord. Il t'a baratiné pendant des heures, non ? T'es tombé sous le charme comment ? Ça s'est fait comment ? Vous êtes croisés ?
Non, c'est, de toute façon, Jacques est un charmeur, mais il n'est pas dans la séduction.
On a bien compris, c'est l'authenticité du mot.
Voilà. C'est un ours, il se définit lui-même, enfin, t'es d'accord, hein, comme un vieil ours.
L'ours du Caus.
Voilà, l'ours du Caus. Donc Jacques, il est pas dans ce rapport-là. Donc voilà, ça a été, je pense, un coup de foudre amical, t'es d'accord ?
Oui. Mais
Jacques, il est pas dans un rapport de séduction. Il arrive, il est lui-même, il est nature, il cherche pas à séduire, du tout. C'est pas quelqu'un, voilà, qui va te baratiner, qui va te charmer.
Il n'y a pas de faux semblant, en tout cas.
Voilà, pas du tout. J'aime pas le mot authentique, parce que ça a été tellement galvaudé, si tu veux, par rapport à plein de choses.
On peut dire être dans sa vraie nature, tout simplement. Hein.
Oui, tout à fait. Voilà. Et puis Jacques, c'est aussi Diego. Faut parler de Diego quand même, parce que
Diego... mais c'est vrai qu'il nous accompagne.
Il est là, Diego.
Alors, attends, on va demander à Jacques. Diego,
oui.
Quoi.
Oui.
Est-ce que tu as des moments pour écrire particuliers dans la journée ou dans la semaine, ou ça vient comme ça?
Non, c'est-à-dire que j'ai commencé à m'occuper réellement de parution. C'est pour ça que c'est un peu bizarre vu mon âge. De parution que dans les années 2014-2015. Donc c'est extrêmement récent. Alors quand on regarde déjà tout ce que j'ai publié, on se dit, mais vain Dieu. Mais j'avais dans mes tiroirs plein de choses. Plein de choses que jamais je ne terminais parce que j'avais une occupation professionnelle, j'avais une activité militante et j'avais une famille à l'époque qui m'occupait tout mon temps. Et je savais pertinemment que l'activité littéraire placée où j'étais, dans la position qui était la mienne, je n'avais pas d'agent, je n'en voulais pas, je n'avais pas les moyens de m'en payer, pour être très clair. Donc ça allait me prendre du temps aussi, ça allait bouffer mon temps. Alors, quand est-ce que j'écris ? Quand je travaillais encore, avant que je ne devienne un vilain voleur de retraités, évidemment, c'était mes rares moments de liberté que je prenais. Maintenant, c'est je vis seul avec mon camarade noir. Là.
Donc voilà, on en vient de Diego. On peut le présenter aux auditeurs.
Ah, oui,
il a quatre pattes et velues. Hein,
il a quatre pattes velues, le poil noir. Enfin, moi, il grisonne un peu. Mais c'est mon compagnon, mon ami, mon pote. Très souvent, c'est le salut que je lui fais le matin, qu'il m'ait souri. Et vraiment, il sourit.
Oui, il sourit. C'est-à-dire
qu'il retrousse les babines,
d'accord,
il me regarde.
Ouais.
Et on voit les dents et il sourit. Hein, c'est... Et donc, je lui salue mon pote. Parce que pour moi, ça me fait penser à une chanson de Mouloudji, Mon pote le gitan.
Ouais, ouais.
Hein, qui a une gueule toute bleue, etc. etc. Mm. Et c'est Diego, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un animal qui est plus qu'un animal. C'est-à-dire que c'est un...
Présence indispensable pour toi.
Oui, alors... Mais c'est vrai aussi de lui, de moi pour lui. C'est-à-dire qu'on ne se quitte jamais. Alors, quand j'écris, j'allais lire tout le temps. C'est-à-dire que j'ai des blocs de papier partout. Et par exemple, cette nuit, J'ai fini deux poèmes que j'avais déjà travaillés, mais bon, que je dois publier dans une revue dans très peu de temps. Donc il y en a cinq qui vont être publiés. Et trottait encore dans la tête, évidemment. Donc à 3h du matin, j'ai allumé ma lampe, et j'étais au lit, j'essayais de dormir, et j'ai repris des bribes de chacun de ces poèmes. Et puis en fait, ça a continué, donc je me suis levé. Alors le chien fait comme d'habitude, Diego fait comme d'habitude, c'est-à-dire que il me regarde. Ensuite, il se dégonfle, et puis il s'allonge. Et au bout de quelques minutes, alors je ne sais pas comment le temps est mesuré par lui, quand il voit que je ne suis plus là, il me rejoint, il se couche sur mes pieds et moi à mon bureau, et voilà. Et c'est comme ça tout le temps.
D'accord, très belle complicité en tout cas.
Et quand tu vois Jacques, tu vois Diego et inversement. Oui. Jacques sans Diego, c'est difficilement concevable, si tu vois.
Tout à fait.
Vraiment.
Alors pour revenir et pour en terminer avec tes illustrations, alors cet œil-là, le dernier qui pleure, alors pour moi... Tu vois, comme la subjectivité du regard, c'est pas forcément des larmes, ça peut être des larmes de sang ou d'hydrocarbures.
Hein. Absolument, mais t'as tout à fait raison.
Enfin voilà, on va.
C'est quelque chose de sale, c'est quelque chose d'infecté, c'est quelque chose de dramatique. Mais tu as tout à fait perçu ce que je voulais exprimer. Absolument, ouais. Tout à fait.
Et puis j'aime bien la terre pelée.
Et oui, quand même.
Quand même. Hein.
Mais en plus, moi, il y a tout ce que vous dites, mais moi, j'ai voulu le placer ici parce que ça faisait suite à un coup de gueule que j'ai écrit d'une traite à propos du centenaire de la guerre de la grande boucherie de 14-18. Et c'est aussi dans la révolte qui était la mienne, parce que toute la journée du centenaire, on a parlé des généraux, des maréchaux, comme des grands soldats,
bien sûr,
en oubliant complètement tous ces pauvres mecs, ces pauvres femmes qui bossaient,
tout à fait.
Cette terre qui a souffert abominablement et qui souffre encore.
Absolument.
D'ailleurs. Et effectivement, cet œil, il était à la fois plein de sang, il était plein de mitraille, il était plein de gaz.
Oui. Hein, tout à fait, tout à fait.
En tout cas, bon, c'est tout à fait bien collé au texte, je trouve. Hein, ça,
merci.
Ça. Voilà. Et j'ai noté aussi dans ton dernier recueil, juste avant l'incendie, que tu fais référence à des chansons qui me tiennent à cœur, Born to be Wild de Steppenwolf, et donc c'est le film Easy Rider, hein, c'est une certaine époque, dont des jeunes épris de liberté, mais qui se perdent aussi, quoi.
Ah, totalement.
Enfin, voilà, il faut. Ouais. Et puis également un autre titre de Lou Reed, Take a Walk on the Wild Side. Ben écoute, on va l'écouter. Hein.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doot 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 doot. Do 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 do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo. Do 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 do.
Toujours, vous êtes sur CFM Radio 90.2. On est en compagnie du poète libertaire Jacques Núñez Teodoro. D'ailleurs, qui va nous donner une précision sur son choix, enfin sa référence à Lou Reed qu'on vient de passer, Take a Walk on the Wild Side. Tu as quelque chose à dire là-dessus?
Oui, oui, d'autant plus que je vais peut-être te lire le poème le titre de la chanson de Lou Reed sert de titre au poème. C'est lié à ce que Marc disait tout à fait au début pour la présentation. Quand on est né dans le milieu d'où, quand on a l'origine de classe que j'ai, quand on a l'être de classe, pour reprendre des termes marxistes, on les garde jusqu'à la fin de sa vie. J'ai une formule, moi, qui est la suivante, que j'emploie dans un de mes livres qui s'appelle Les Moutons Noirs, qui parle de ça. La boue que tu as sous tes semelles, tu les trimbales jusqu'au bout de ta vie, et quiconque vient de là et qui veut nettoyer ses godasses est un salaud. J'ai horreur des traîtres. D'ailleurs, il y a un tout petit bout dans Les Moutons Noirs à la fin où j'avais entendu un écrivain dont je préfère oublier le nom, qui disait il faut avoir un peu d'humour et se détacher de cela. Moi, je pense avoir de l'humour, mais pas pour ça. Moi, mon humour, c'est quand je brandis le drapeau noir, ou quand au besoin, effectivement, je travaille avec des gitans, quand je travaille en prison avec des femmes délinquantes, etc.
D'ailleurs, tu dis toi-même, la révolte est un pli de l'âme, tu l'as ou tu l'as pas.
Voilà, exactement. Voilà,
ouais. J'ai relevé ça. Et toujours ce feu de révolte qui t'anime. Peut-être tu pourrais faire lecture du poème, d'ailleurs.
Alors, le poème de Lou Reed, le mien, mais qui s'appelle effectivement, j'ai emprunté le titre, alors pardon pour l'accent, parce que je parle deux ou trois langues, mais pas celle-là. Tac, ce qu'on vient d'entendre. Hein,
pas de souci.
J'ai marché, tant et tant, durant cette vie. Tant abîmé mes pieds qu'aujourd'hui, ni empreinte, ni certificat. La fatigue m'étouffe, tel un suaire de novembre. Épaules basses, genoux brisés, maux en jachère, comme un vol de freux sur une campagne éreintée. Dans nos villes hallucinées de vilopeurs, le passant presse le pas, son ombre de marbre accrochée à ses épaules. Les murs tacent des zombies détrempés, les rues hoquettent sous le bitume des relents des pavés. Les écrans pendus au regard mutilent les ballons d'enfants. Le ciel, là, allaite ses odeurs de décharge. J'égrène comme les vieilles leurs chapelets pour caresser la possèche des souvenirs, des images chiffonnées aux plis avides, les rides pleines de pleurs de l'océan. Le temps viendra où je filerai mon dernier maillon. Les doigts trop maladroits alors pour ravauder ma vie, la nuque trop cassante pour rire au vent debout, le regard encore étonné d'être né un jour. J'ai marché. Marché depuis ce matin-là, tant et tant. Le corps raviné de sueur, la tête au vertige du trimar. Les marins inventent le monde. Moi, j'ai déchiré mes loques dans les chemins creux. Dead end. Les eaux craquent sous le poids de l'homme. Tuck away the wild side. Traqué, débusqué, débusqué, démasqué, cloné. Retour à la cohorte, on rase le mur. Dans nos villes droguées à la ville peur, presse le pas, presse le pas. L'ombre courbe tes épaules, des doigts tremblants bloquent les portes, les rues effacent. Sous les blessures de leur passé, le ciel crasse goudronne les ailes des oiseaux, les écrans agrippés aux yeux, au creux des orbites, achètent les enfants, comme des occasions. Alors, né du mauvais côté des pavés, je marche. Les genoux brisés, la jambe incertaine, je funambule juste au ras de la falaise. L'océan lance ses crocs remplis de bave sur les rochers, noirs, si noirs, de la baie des trépassés.
Merci Jacques. On va peut-être enchaîner avec Anne qui a fait un choix poétique sur un poème de Jacques. C'est L'enfant avec des cernes.
L'enfant avec des cernes. Un enfant pauvre me regarde avidement. Une cité soleil hante ses cernes. Des yeux espacent un tremblement de lignes, des mains d'encre pour habiller la rue. Un tremblement qui feuillette un livre mouillé, pas même la sainte colère, juste des ongles pour river la peau aux os. Un enfant pauvre dévore avidement les vitres du café, pas même la voix pour casser, juste des cernes pour peindre une cité-espace. Les enfants rutiles de rêves défaits, des enfants mitraillés qui éclatent en délits de soleil, foudroyés, bouches ouvertes pour une salve de couleurs crépues. Les cris de la ville qui fulgurent sur les trottoirs, là, élus de sans honte, la pousse des violettes. Le cœur agrippé à la chemise, écartelé entre l'hiver et l'été, comme on pleure à 20 ans, un enfant regarde avidement l'eau s'écouler sous ce pont cadenassé de serments siglés. LOL.
Merci. Merci Anne pour ta lecture. Mais écoutez, moi je terminerai donc notre entrevue également par un poème de Jacques, Ritournelle des continents perdus. Avec ton illustration fameuse de la Terre en peau d'orange. Ah oui. Oui, tu voulais dire quelque chose, Jacques ?
Juste, moi, je voulais le terminer sur un hommage à mon chien.
Oui. Ah oui, à Diego.
Mais il est très court. Non, mais
d'accord.
Après toi.
Ah ben après moi, d'accord, ok. Ritournelle des continents perdus. La tectonique des sentiments éparpille les corps. S'effondre au fond des failles les amenées du hasard. C'était écrit dans la pomme de l'ouragan. L'ouragan, c'est sa leçon, sur le bout des doigts, s'écorche aux déclinaisons des failles, les amenées de travers. Et s'effritent les châteaux de sable, caprice montée à la va-vite, fondation fragile, le sable redevient sablier. Il n'est de continent que l'île déserte. Le reste est comme pour poète à laisser, voyage de pacotille et corsaire de crépons. Les bateaux maquettes de pochettes surprises, qui écrasent le premier vent venu. Comme le temps abîme les soldats de plomb, comme le temps brise sous ses pieds de grimauds les rêves des enfants de 8 ans. Les yeux tombés des nues, dans l'eau croupie du miroir, écho incertain de regards effacés, cécité pendue à l'espoir des halos, nous rampons sur les lisières. La tectonique des corps éparpille les sentiments. Voilà, et Jacques, donc, de conclure par un poème...
Très court. Un poème qui s'appelle « Le chien d'Ulysse ». Amère potion que vire, amère décoction d'herbes desséchées, sur le tamis des jours sans fin. On rentre dans son costume froissé de silence, des regards avortés pendouillant aux boutonnières, où se blesseront des doigts orphelins de tendresse. Et ces nuits hantées qui griffent des rues d'inutiles errances. Toute vie est vénerie, échange vénéré, jeu de vilain, chat perché, un, deux, trois soleils. Jeu de main toujours avec la tête ailleurs. Au port entre un bateau. Un autre déjà se fend sur une lame, échange dérisoire. Seuls les putains connaissent la longueur du quai. On s'est rêvé des aventures au long cours. On se lasse de la pêche aux turières. Alors, on s'achète une croisière à bas coût. La vie se tasse avec les ans et les corps fatiguent. La croisière n'amuse pas. Et un chien attend, assis, auprès du môle, par où reviennent les navires.
Merci Jacques. Il a de la chance, Diego, hein. Ouais, quand même.
Et Jacques a de la chance aussi, à part Diego, absolument. Et vice-versa, on va dire.
On vous remercie à tous les deux pour votre présence. Merci Jacques, merci Anne. Bien sûr, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Je peux rajouter quelque
chose. Tu avais une petite information, peut-être.
Oui, moi je voulais juste dire que je serai présente avec mes livres pour enfants au Salon du Livre Rouerga de Paris-Bercy les 12 et 13 octobre, c'est très bientôt. Et puis au Salon du Livre de Millau le 26 octobre. Et pour terminer, le 15 décembre, au Salon du Livre de Lafitte Vigordane vers Toulouse. Voilà, c'est tout.
Voilà qui est dit, mais ça me fait penser aussi que j'ai une information.
Vas-y,
toi. Voilà, j'en parlerai plus pleinement la semaine prochaine. Mais voilà, j'aurai la joie d'accompagner Thérèse Rébé, ouais, qui va lire le Pendu des Pendus. On va faire un spectacle ensemble, je vais l'accompagner par le chant, la guitare et la flûte. Enfin voilà, je vous en parlerai plus pleinement la semaine prochaine. Ça se tiendra à la maison des pèlerins à Villeneuve le 16 octobre à 20h30. Et pour terminer, oui, Jacques.
Petites informations. C'est une fête. Je serai la semaine prochaine sur vos amis d'Antenne Doc à Cahors, mardi. Et le samedi suivant, je serai une journée m'est consacrée par la librétèque qui s'appelle Le droit à la paresse, fortement teintée de libertaire. Toute la journée me sera consacrée avec rencontre avec le public, discussion sur qu'est-ce que c'est politique, littérature et poésie, etc., etc., etc.
D'accord.
Plus d'autres salons, dont deux Aveyronnais. À la fin de l'année, quelques jours après. Enfin bon,
bref, voilà. Bon, très bien, ben, un bon programme à venir.
Et parution de deux livres bientôt. Alors oui, encore une chose quand même. Si vous voulez être intéressé par...
Ouais.
La dérive des continents est publiée par une association qui s'appelle Le Livre à lire.
On peut te contacter.
On peut surfer
sur le net et voir tes références. Il y a
pas
de souci.
Oui, on peut trouver de toute façon à partir de la revue à l'index en deux mots. On trouve les références de ça. Et quant à juste avant l'incendie, il a été publié en 2016 et il est publié par les éditions du Bord du Lot à Villeneuve-sur-Lot, dont on trouve aussi les références. Sur
Internet.
Internet, ou celui-ci, on peut le commander en librairie aussi.
D'accord, très bien. Ben voilà qui est dit. On va se quitter avec Paco Ibáñez, Palabras para Julia.
puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso.
Paysage vibratoire. L'émission de poésie en habit de musique. Un moment radiophonique sensible et jubilatoire proposé par CFM Radio.